De vous à nous, votre émission psy avec Jean-Charles Clément sur Radio Aviva. Pour joindre Jean-Charles Clément, envoyez-lui dès à présent toutes vos interrogations, vos problèmes par mail de vous à nous @radio-aviva.com.
Bonjour Jean-Charles.
Bonjour Martine.
Alors aujourd'hui, Jean-Charles, nous avons pris le pari de parler à nos auditeurs de la somatisation et je crois que nous allons le faire, je parle sous votre contrôle, oui, à travers de deux cas cliniques, voilà, ou de situations concrètes, disons.
Oui, des situations concrètes
voilà,
qu'on peut rencontrer.
Alors, nous allons présenter peut-être d'abord ces cas avant que vous les analysiez. Vous nous parlerez de la somatisation et ce qui en découle pour l'individu. Alors, si vous le voulez bien, nous allons prendre le premier cas. Mmh. Nous allons peut-être parler en alterné pour que les auditeurs fassent bien le contour de ces situations. Et après, nous irons dans le détail avec vous.
D'accord.
Voilà. Alors, le premier cas que vous nous soumettez, Jean-Charles, c'est un jeune homme qui s'appelle Martin. Il a 30 ans. Et il est marié avec une petite fille de 5 ans. Il est cadre commercial dans une grande distribution.
Oui.
Et à ce moment-là, il vient en consultation. Et est-ce qu'on peut connaître les raisons de cette consultation ?
Voilà, ce monsieur s'est présenté à moi parce qu'il souffrait depuis un certain temps de crise de tétanie. En fait, il les éprouvait surtout, principalement le soir, quand il rentrait chez lui.
Voilà, en fait, vous nous confiez qu'il trouvait que sa fille faisait beaucoup de bruit et que cela avait tendance à l'agacer, mais il se contenait pour ne pas s'énerver devant sa fille et devant sa femme, ce qui avait une sorte de self-control quand même.
Hein. Voilà, il se contrôlait pour quand il se sentait débordé par une forme de colère, enfin quelque chose qui montait chez lui.
Qui montait, voilà.
Il la contenait plutôt que d'essayer de la faire sortir d'une manière ou d'une autre.
Pourtant, vous nous confiez, Jean-Charles, qu'à cette époque, tout semblait aller bien pour lui, puisqu'il venait d'obtenir une promotion et que le couple était en train d'acheter une maison.
Oui, tout voilà, à fait. C'était un point important.
C'était un point important, un point de stabilité quand même, hein, pour la famille. Et d'autre part, dans ses loisirs, ce monsieur pratiquait intensément les jeux vidéo et les jeux vidéo en ligne avec des amis, style jeu de guerre ou de stratégie, jeu de rôle, etc. En fait, ces jeux que l'on voit partout et qui sont quand même, qui font les beaux soirs de beaucoup de jeunes et de moins jeunes derrière l'écran des vidéos.
Voilà, ce sont des jeux assez courants. C'était sa manière à lui qu'il avait trouvé pour... parce qu'on a parlé de cette question de la colère et de la violence pendant les entretiens. Et voilà, c'était une manière pour lui de faire ressortir ça par le moyen des jeux vidéo. Il y avait aussi la question de la musique. Il écoutait des musiques assez violentes.
Alors, quel style de musique écoutait-il ?
Ah, c'était des musiques style punk, rock, hard rock, des choses comme ça. Enfin, des musiques assez qu'on peut qualifier de violentes, mais qui sont... Enfin, c'est un style de musique commun. Hein,
oui, tout à fait.
Voilà, il y a pas de...
Est-ce qu'il était entouré d'amis ?
Oui, il avait beaucoup d'amis.
Oui, enfin, il était sociabilisé, un groupe d'amis.
Oui, il n'était pas isolé, comme on peut imaginer les personnes qui jouent des jeux vidéo tout seuls, ou quelque chose comme ça. Non, c'était en groupe.
Oui, c'est ça, avec des soucis, amis, donc amitié, musique, une stabilité, marié, etc. Alors, que vous évoque-t-il au cours des séances ?
Voilà. Alors en fait, sur cette question de la violence et de la frustration, on va dire, on avait un peu exploré l'enfance et il a exprimé que quand il était enfant, il avait des altercations avec les autres enfants, il avait plutôt tendance à être assez violent avec eux.
Donc cette violence est un petit peu le dénominateur commun que vous avez trouvé durant toute sa vie.
Voilà. En fait, finalement, ça, il s'est présenté que c'était la raison de la consultation, puisque les crises de tétanie n'étaient que le symptôme d'une forme de colère intérieure.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crise de tétanie ?
Ça peut revêtir plusieurs formes. Chez lui, c'était au niveau des mâchoires, ça se crispe. Il y a aussi au niveau du cou. Voilà, la crise de tétanie, c'est quelque chose qui touche les muscles et qui fait qu'on a parfois même jusqu'à des tremblements On se rigidifie, on a plus de difficultés à bouger. En général, c'est temporaire, ça passe. C'est majoré par voilà,
par l'angoisse, certainement.
Voilà, par l'angoisse, la colère, voilà, quand on se contient, on serre les dents, comme on dit.
Bon, alors, est-ce qu'on peut aller un peu plus à fond dans vos séances? Comment avez-vous traité cela?
Il s'est au fur et à mesure des séances, ce monsieur pouvait, il venait confier donc des éléments de sa vie qui faisaient que il avait une forme de colère, de quelque chose comme ça qui bouillonnait en lui. Il avait trouvé des moyens d'avoir une forme d'exutoire par les jeux vidéo, par la musique, par ses amis. Mais en fait, là, comme il était un point crucial de sa vie au niveau de l'engagement, qui était donc à la fois la promotion et l'achat d'un bien immobilier, il se sentait pris dans quelque chose qui le dépassait. Et c'est là où c'était difficile pour lui. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les crises de tétanie sont apparues, parce qu'il n'avait pas vraiment d'endroit où en parler. Et l'intérêt du psy, c'est que c'est un espace de parole. Donc, dans les séances, il pouvait verbaliser ses émotions. Et les crises de tétanie ont disparu assez rapidement.
Assez rapidement, oui. Donc voilà, c'est le fait qu'il vous lui ait permis de libérer cette parole, ça a calmé ses crises de tétanie. Ouais. Et donc après, qu'est-ce que vous avez pu faire? Est-ce que vous l'avez accompagné? C'était des séances toutes les semaines, plusieurs fois par mois?
C'était plusieurs fois par mois, en fait, au début assez rapproché, et puis au fur et à mesure, quand le symptôme s'est dissipé, on va dire... Voilà, ça s'est espacé, puis ça s'est arrêté assez rapidement. Je pense moins d'une dizaine de séances, et voilà, ça s'est résolu.
Bien, bah écoutez, Jean-Charles, je vous propose donc un moment musical, et puis nous allons revenir sur un autre cas. À tout de suite. Alors, chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Aviva et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Charles, donc, voilà, qui est psychologue et qui nous parle aujourd'hui de la somatisation. Alors, nous traitons des cas, des cas concrets, donc des cas cliniques. Et là, nous allons aborder maintenant notre deuxième cas clinique en la personne d'Aude.
Voilà, j'ai choisi en fait deux situations, deux personnes différentes. Apparemment, un homme, une femme qui n'ont pas le même âge, mais qui ont les mêmes symptômes.
Voilà, alors vous nous confiez que cette jeune femme de 40 ans est célibataire et sans enfant, et elle dirige un commerce, donc commerçante. Et elle souffre donc de crises de tétanie depuis une dizaine d'années. Elle a même des douleurs dans le dos et le cou, ainsi que des troubles de sommeil. Donc ça a l'air un peu plus, disons, conséquent que le premier cas évoqué, en tout cas au niveau physique.
Oui, bah en fait, il est vraisemblable que on ne sait pas par où ça a commencé, c'est-à-dire les douleurs ou les crises de tétanie, mais il est vraisemblable que cette dame n'ayant pas trouvé un moyen pour soulager tout ça, en parlant chez un psychologue, ça s'est aggravé. Parce que là, ça fait une dizaine d'années.
Voilà.
Le cas précédent, ça faisait pas très longtemps, en fait.
Voilà. Celui-là, pris au départ. Donc, c'était beaucoup plus ce cas-là que nous sommes en train d'étudier, beaucoup plus ancré depuis une dizaine d'années. Mais alors, dites-moi, pendant 10 ans, elle n'avait consulté personne ?
Si, en fait, elle avait fait de nombreuses explorations sur le plan organique, on va dire, des IRM, des radios pour vérifier qu'il n'y avait pas de fracture ou de fêlure. Voilà, elle avait vraiment rencontré beaucoup de monde et fait beaucoup d'analyses qui finalement n'arrivaient pas à expliquer que parfois elle se bloquait ou qu'elle avait ces crises de tétanie. Voilà, c'était inexpliqué pour l'instant.
Alors, est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que les symptômes se sont aggravés ?
Oui. Alors, en fait, quand elle est venue me consulter, parce qu'elle n'avait jamais rencontré de psy avant, enfin, à part, on verra après, mais elle était dans un centre antidouleur où il y a des psys qui interviennent. Donc... Mais à part cela, elle n'avait jamais rencontré de psychologue ou de psychiatre. Et en fait, on peut dire que ça tenait comme ça, mais il y a eu un épisode dans sa vie qui fait que ça s'est aggravé, c'est-à-dire qu'elle avait une employée dans ce commerce qui est tombée enceinte. Et c'est à partir de là que la relation entre les deux,
l'employé et son employé,
c'est à partir de là que la situation s'est dégradée très franchement. Et voilà.
Donc, vous nous confiez même qu'elle est allée jusqu'au prud'homme. Il y a eu un procès entre elles deux.
Voilà.
Bien, alors, donc elle est venue vous consulter, et à partir de là, qu'avez-vous découvert ?
Oui, alors en fait, il y a aussi... donc, on a découvert ensemble que... la question, c'était de savoir pourquoi rien ne venait soulager ce symptôme, en fait. Alors, il est vraisemblable que c'était la question, le fait de ne pas avoir d'espace de parole. Mais alors, voilà, comme pour la première situation, d'où venait cette question ?
Enfin, ce mal-être,
voilà,
finalement.
Ce symptôme, d'où venait-il s'ancrer ? Et en fait, en explorant un peu l'histoire de cette patiente... voilà, il y a eu un épisode dans sa vie, 10 ans auparavant, cette dame avait subi une interruption volontaire de grossesse, puisqu'elle avait eu...
Donc à l'âge de 30 ans.
Voilà, elle avait 40 ans. 30 ans, c'était l'âge
de son IVG.
Oui, mais aussi de son employé, en fait, elle est tombée enceinte.
Voilà, le même âge, donc.
Voilà, et en fait, elle avait eu... c'était une relation extra-conjugale pour l'homme, dans le cas de cette IVG. Et voilà, en fait, depuis, cette dame n'avait pas eu de rencontrer d'autres hommes, en fait.
Oui, donc elle était fixée sur cette rencontre de 30 ans qui s'est soldée par une IVG, et donc certainement un ressenti très cruel dans son corps, une souffrance énorme, et elle n'a pas supporté donc cet employé qui était à côté d'elle, au même âge, puisse être enceinte et aller accoucher d'un enfant.
Voilà, ça a résonné pour elle de manière très violente, si bien que pendant le suivi aussi en psychothérapie, elle a été à l'hôpital à un certain moment pour un contrôle. Mmh. Et voilà, à l'hôpital, je crois qu'il y a les femmes enceintes et pour l'IVG, c'est la même salle d'attente, je crois. Et donc ça a résonné encore plus fort avec elle, quoi. Ça a aggravé encore les symptômes.
Donc elle est venue, à partir de là, elle est venue vous consulter.
Oui.
Voilà. Alors, que s'est-il passé pendant la psychothérapie ?
On a travaillé la question de ce traumatisme qui n'avait pas été parlé, qui n'avait pas pu s'exprimer, en fait, et qui donc était venu s'ancrer dans le corps, en fait.
Voilà. Tout à l'heure, vous m'avez évoqué un phénomène de décompensation. Mmh. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs, une décompensation ?
Voilà, la question de la décompensation, c'est un terme pour dire que, en fait, on tombe malade, enfin, si dans un sens général. Mmh. Voilà, c'est un terme technique, on va dire. Mmh. Pour dire que la personne tombe malade.
Tombe malade, voilà. Donc, la souffrance psychologique et psychique influe complètement, c'est la démonstration, complètement sur le physique.
Oui. En fait, parce que décompensation, ça veut dire que ce n'est plus compensé. En fait, c'est compensé par quelque chose. Donc c'est pour ça, quand cette chose, pour pas être trop technique, quand cette chose qui est débordée, on va dire, parce qu'il n'y a pas, parce que l'émotion ne va pas ailleurs, ça décompense. C'est-à-dire que ça, c'est un peu la métaphore de quelque chose qui vient submerger, comme la rivière qui sort de son lit. On va voir ça comme ça.
Voilà, je vais vous poser une question, parce que tout à l'heure, vous me disiez que depuis 30 ans, l'âge où elle a subi cette IVG, elle n'a pas eu de relation, disons, avec d'autres compagnons. Et elle vous a choisi en tant que psychologue homme. Pourquoi ? Elle aurait pu choisir une femme. Pourquoi est-elle allée vers un homme ?
Oui, c'était une des questions qu'on a travaillées aussi. C'était parce qu'elle refusait de voir une psychologue femme. D'ailleurs, c'était au centre antidouleur, c'était une femme qui pouvait la rencontrer. Et ça se passait mal aussi. Donc, elle a sciemment choisi un homme pour... après, je dirais inconsciemment, elle voulait travailler cette question du rapport aux hommes.
Oui, certainement, c'est ce que je pensais.
Souvent,
hein.
Les...
C'était un tout qui était lié, cette IVG, le fait que l'autre personne soit enceinte, etc. Mmh. Donc derrière tout cela se profilait certainement l'image de l'homme.
Oui, en fait, voilà, c'est plusieurs endroits, il se produit des agressions, des attaques sur le système chez la patiente. Et au bout d'un moment, ça cède parce qu'elle est débordée. Quoi,
oui, tout est imbriqué, c'est ça qu'il faut bien comprendre.
Il n'y a pas un signe qui peut faire qu'il y ait une décompensation, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste voir une femme enceinte pas un signe qui peut amener
à
ce débordement. Il faut plusieurs, il faut que ça soit répété aussi. Donc, c'est pas comme ça.
Voilà, alors Jean-Charles, je vous propose une autre pause musicale et puis nous allons faire la synthèse de ces deux cas sur la somatisation. I was running for the hills, I knew no more about today. Thinking backwards, thinking forward, either way, not much to say. We'll be right back. Nous sommes toujours sur Radio Viva, nous sommes toujours avec Jean-Charles, et donc psychologue qui nous parle de la somatisation. Nous venons de vous évoquer deux cas cliniques, et maintenant, si vous le voulez bien, Jean-Charles, nous allons faire un peu une sorte de synthèse des deux cas que nous venons de traiter. Alors, nous avons vu que la souffrance psychologique, psychique, s'exprime et passe par le corps. Et ça, souvent, on a tendance à négliger cette souffrance. On a l'impression que le physique prime sur le psychique ou le psychologique. En fait, pas du tout. On voit que les deux sont intimement liés.
Oui, c'est assez ancien. Enfin, depuis Descartes, on pense qu'il y a le corps et l'esprit, chacun de son côté. Mais c'est vrai que on s'aperçoit finalement que le corps et l'esprit sont très liés, en fait. Dans la question de la mémoire, dans la question des apprentissages, il y a toute une série de recherches dans le champ de la psychologie cognitive sur la question du mouvement, des apprentissages, des choses comme ça.
Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par exemple la colère ou un traumatisme qui ne peuvent pas s'exprimer oralement par les mots, M-O-T-S, oui. Eh bien, vont s'exprimer par les mots, M-A-U-X, par le corps, et que les émotions négatives, peut-être positives aussi d'ailleurs, se déplacent sur le corps, non ?
Oui, même les émotions positives.
Voilà, ce positif, oui, parce que j'ai hésité à vous dire.
Il y a des charges d'adrénaline, de dopamine.
Voilà, tout à fait.
Il y a toutes sortes d'hormones qui sont, soit du stress, soit de la joie. Enfin.
Voilà, et donc ça engendre l'angoisse, tout cela.
Oui, en fait, moi je parle de ma place de psychologue. Donc, ce qui est de l'ordre du stress, ou comme dans la première situation où c'était une colère contenue, réprimée, on va dire. Ou dans la deuxième situation, c'était quelque chose qui n'avait pas été exprimé, qui n'avait pas trouvé sa place. Parce qu'il n'y a pas que les psychologues pour dire sa souffrance. Hein. Mmh. Tout le monde n'est pas obligé d'aller consulter un psychologue, heureusement. Hein. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas d'autres lieux pour dire la souffrance pour quelqu'un, c'est vrai qu'il y a de fortes chances que ça vienne s'ancrer sur le corps. Et que c'est peut-être anodin au départ, mais on peut penser que si ça continue, si ça se répète, ça peut amener à la fin quelque chose qui est problématique, pour le coup, là, quelque chose qui donne des symptômes vraiment invalidants, quoi.
Voilà, d'ailleurs, je pense à l'adolescence et, vous savez, à la meilleure amie qui est la confidente de la jeune fille de 12 à 14, 15 ans. Mmh. En fait, c'est cette place de la confidente, de la meilleure amie, est quelque chose d'important, donc.
Oui, à double titre, parce que ça permet à la fois de confier, de parler, de dire quelque chose, mais aussi, mais en même temps, donc il y a cette fonction libératrice, comme on pourrait penser, mais en même temps, quand on parle, on reformule sans cesse ses propres idées. Donc c'est aussi une fonction de reformulation, que ça soit chez un psy ou chez sa copine. Il n'y a pas juste...
Voilà, c'est ce que vous disiez. Donc c'est important de pouvoir reformuler, de pouvoir... Voilà. Mais pour revenir à notre patiente Aude, là, tout à l'heure, c'était une personne quand même, elle a essayé de s'en sortir quand même, parce qu'elle a consulté, elle est allée plusieurs fois dans les hôpitaux, etc. Elle a vu plusieurs médecins, elle a subi des examens, et on a l'impression que c'était une sorte de fuite en avant. Elle courait de l'un à l'autre, etc., jusqu'à ce qu'elle vous rencontre.
Oui, voilà. C'est vrai qu'elle a pris le parti de consulter, je pense, vraisemblablement parce que ça n'allait pas au centre antidouleur avec l'autre psy. Mais c'est vrai que, elle allait d'un médecin à l'autre, enfin, sur des. La question de l'hôpital, c'est bien de pouvoir évacuer les questions organiques, c'est-à-dire des maladies graves, des maladies somatiques vraiment graves, ou d'une fracture, ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que quand, au bout d'un certain temps, les explorations ne donnent pas de réponse, c'est vrai qu'il faut arriver à pouvoir, en tant que professionnel, il faut arriver à pouvoir conseiller un psy, quoi. Et même, c'est pour ça que dans les équipes à l'hôpital, maintenant, il y a de plus en plus de psys pour justement observer ces mouvements qui sont... pour éviter de passer d'un médecin à l'autre, d'une recherche vers une autre recherche.
Donc, combien de séances pour traiter un cas comme Aude, à peu près, il faut plusieurs séances, je suppose. Parce que le premier, vous nous avez dit, Martin, en quelques séances, c'était un phénomène assez récent. Donc, il a pu exprimer tout cela. Alors que Aude, c'était quand même un phénomène de 10 ans, c'était quand même ancré, c'était beaucoup plus résistance. Je pense que les résistances ont été plus importantes.
Ah oui, même tellement importante que ça s'est pas... Enfin, moi, je j'aurais pas la réponse puisque ça s'est arrêté avant que bon, ça allait mieux, mais c'était pas encore ça.
Voilà, pour trouver une guérison.
Ça a été assez rapide. Ça a été arrêté par la patiente. Je pense qu'il y a un certain point où, quand on est dans un système depuis un certain temps, aller voir un psy pour changer, c'est compliqué parce qu'il y a aussi des bénéfices aux symptômes.
Très bien. Voilà. Bah, écoutez, merci Jean-Charles pour cet éclairage sur la somatisation. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours très simple.
Alors voilà, je voulais dire pour nos futures émissions, voilà, si des auditeurs veulent nous adresser simplement des thèmes qu'ils souhaiteraient voir traités dans l'émission, aujourd'hui c'est la somatisation. Voilà, il peut y avoir des questions comme par rapport à l'école, par rapport au travail, mais des questions générales sur des thèmes qu'on traitera avec des cas concrets.
Voilà. Mais écoutez Jean-Charles, je pense que ce message sera entendu par les auditeurs de Radio Aviva et je vous dis à très bientôt.
À bientôt Martine.
De vous à nous, votre émission psy avec Jean-Charles Clément sur Radio Aviva. Pour joindre Jean-Charles Clément, envoyez-lui dès à présent toutes vos interrogations, vos problèmes par mail de vous à nous @radio-aviva.com.